L'heure des mots.
L'heure des mots.
L'heure des mots.
Je suis Wedad, votre host, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Paris 8. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de langage, notre thème du jour. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons tout d'abord la chronique de Morgane, Les mots qui restent, et ensuite Zineb avec sa chronique sur le langage des jeunes. Nous accueillerons par la suite Antoine et sa chronique sur la fenêtre d'Overton, mais également une chronique sur le blocus des étudiants pour la Palestine. Nous finirons cette émission avec deux chroniques, celle de Julia qui va nous expliquer le male gaze et le langage visuel, et celle de Camilla, la promesse et une rencontre entre le passé et l'avenir. C'est parti pour l'heure des mots. Les mots peuvent frapper, choquer, surprendre, d'autres nous touchent en plein cœur. Écoutons une chronique de Morgane sur ces mots et expressions qui restent ancrés dans vos esprits.
Pourquoi certains mots ou expressions restent bloqués dans notre tête? Quels impacts ont-ils sur notre perception de la vie? Comment ils nous façonnent? On va pouvoir expérimenter ce sujet avec plusieurs témoignages. Vos témoignages que j'ai pu recueillir au sein du campus Paris 8.
Le mot bienveillante, durant mes études, du coup. Parce que j'ai appris à connaître beaucoup de personnes, beaucoup de monde, et surtout lors des travaux de groupe, etc. On m'a toujours dit que j'étais bienveillante, que je faisais attention aux autres dans les travaux, et franchement ça m'a marqué, parce que je pensais pas que j'avais cette qualité-là forcément.
Une attitude que je décris comme être attentif aux autres, de vouloir leur bien et de faire preuve d'empathie et de compréhension. Elle se manifeste par des gestes simples, comme écouter son jugé, aider quelqu'un en difficulté ou encore faire preuve de patience et de gentillesse. Dans la société actuelle, la bienveillance joue un rôle crucial. Elle contribue à créer des environnements plus positifs, que ce soit au travail, à la fac ou dans les interactions quotidiennes, dans le métro ou dans la rue. Et puis, il y a les mots qui ne se contentent pas de décrire une attitude, mais qui évoquent une lutte, un engagement profond. C'est le cas du...
Je pense que le mot et tout ce qu'il y a derrière, c'est le féminisme.
Ok.
Je pense que ça m'a marqué quand je l'ai découvert dans le cadre de ma situation familiale quand j'étais genre au collège, parce que ça... En soi, c'est pas vraiment le mot, parce qu'on connaît tous et tous un peu, mais c'est plus toutes les thématiques qu'il y a derrière et le monde et la libération que ça procure.
Le féminisme, ce n'est pas qu'une lutte personnelle, mais une solidarité, un héritage, un combat collectif. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que l'on ne l'est pas. C'est impensable, dans une société où les inégalités persistent, sous des formes parfois plus subtiles. Être féministe, c'est être vigilant, c'est se questionner sur la condition des femmes dans le monde, mais surtout guider les générations futures. Si on ne montre pas l'exemple, qui le fera? Parfois, ce sont des phrases entières qui résonnent en nous. Des mots qui, mis ensemble, nous guident vers une prise de conscience. Une nouvelle fois. Comme cette expression entendue par une psy.
C'est être tranquille avec son passé, bien ancré dans son présent, pour se tourner vers l'avenir.
Ok. Et vous avez appris ça comment?
J'ai appris ça dans un cadre familial.
Ok.
Ouais.
Okay.
Mes parents, une transmission parentale.
Ok. Et ça vous a marqué comment?
Ça a déterminé mon choix pro.
C'est-à-dire?
Je suis psy.
Ok.
Ces mots simples ont changé son parcours, jusqu'à la mener vers le métier de psy. Le passé ne doit pas être un fardeau, mais une fondation. Le présent, c'est là où tout se joue. Et l'avenir, on le construit en avançant, sereine et confiante. Je trouve ça beau et honnête, parce qu'au fond, on a tous ce défi à relever, faire la paix avec nous-mêmes et se libérer de notre passé.
Merci beaucoup Morgane, et tout de suite, nous allons retrouver notre chroniqueuse Zineb.
Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrai au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrai au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne?
Vous êtes toujours avec moi? Super, maintenant. On va plonger dans l'univers des jeunes et tout comprendre sur leur langage. Si toi aussi tu te demandes d'où ça vient le « wesh », alors Zineb va nous répondre. Salut Zineb, tu peux nous en dire plus s'il te plaît?
Oui, salut tout le monde. Alors on se retrouve pour parler des jeunes et leur langage. D'abord, on a demandé à plusieurs d'entre eux, des étudiants de faculté, des jeunes lycéens, quels mots ils utilisent le plus en tant que jeunes, et voilà ce qu'ils nous répondent.
Et donc on a demandé aux jeunes quels mots utilisaient-ils le plus dans leur vocabulaire.
Ben, c'est wesh.
Celui que j'utilise le plus, c'est wesh ou alors chelou.
Moi, ce que je dirais le plus, enfin, pour moi, c'est wesh.
Vous l'aurez compris, entre MDR et wesh, les jeunes ont inventé leur propre façon de parler. Souvent, ces mots proviennent du verlan, des mots à l'envers.
Ah oui, comme quoi ?
Comme le mot « chelou » qui veut simplement dire « louche ». Il est chelou celui-là, il est louche celui-là. Où ils trouvent leur racine dans les langues arabes comme le « wesh » qui est une onomatopée utilisée pour l'étonnement parce que j'ai vérifié dans le dictionnaire français le fameux Larousse et ça n'existe pas. En fait, c'est un super dialecte et quand on ne comprend pas, on est gênant.
J'ai une petite question, tu peux nous dire si ça joue sur nos élèves et sur le système éducatif national ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Et oui, j'allais y venir. Selon une étude de l'éducation nationale, les élèves font beaucoup plus de fautes d'orthographe aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Peut-être parce qu'on n'écrit plus comme on parle, et un élève de 6e fait environ 10 fautes d'orthographe par dictée, selon une étude menée par l'Observatoire des compétences et des pratiques professionnelles de l'éducation en 2018. Et si on essayait de mieux parler les jeunes ? Je pense que même ChatGPT, il va finir par se perdre, ou alors il faudra davantage innover. C'était Zineb sur Radio Campus Paris, dans l'émission L'heure des mots, prenez soin de vous.
Et oui, vous l'aurez compris, le français évolue au cours des générations. Merci pour cette intervention, Zineb.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon. Et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole encore des paroles.
que tu es belle.
On vient d'écouter Parole, Parole de Dalida et Alain Delon. L'émission L'heure des mots continue sur Radio Campus France. C'est maintenant l'heure de Critica Cogito, la chronique d'Antoine qui t'explique un concept politique pour développer ton esprit critique.
Merci Wedad, aujourd'hui dans Critica Cogito, on s'intéresse au concept de la fenêtre d'Overton, mais avant ça, intéressons-nous à un phénomène qui touche de plus en plus nos démocraties, la montée en flèche des partis populistes dans de nombreux états du monde. Alors comment expliquer cet intérêt aussi fort que suscitent désormais ces partis dans le débat public, mais aussi dans les urnes? Mais définissons déjà le populisme pour mieux comprendre cette montée en flèche de ces partis.
Qu'est-ce qu'on entend quand on entend quelqu'un qu'on va dire populiste?
Leur franc-parler, leur style direct, sans filtre, avec des insultes contre les minorités, contre les femmes, contre les homosexuels.
C'est leur contestation du droit, c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes.
Une rhétorique également anti-élite, anti-média, qui a fait leur succès électoraux.
Ça veut dire quand même que le populisme, c'est une menace pour la démocratie.
C'est donc avec crainte et avec méfiance que nous définissons aujourd'hui le populisme. Des partis pour le peuple, mais basés sur une fracture identitaire à plusieurs échelles. Partis anti-élite et prônant une représentation du peuple, anti-média et mettant en avant les mécontentements pour élargir leurs résultats électoraux. Le discours de ces partis, aussi virulent qu'infondé, ne vise qu'à une chose, manipuler le maximum de personnes afin d'obtenir le pouvoir. Ce qui est dit et discuté dans le débat public joue un rôle crucial dans les élections des représentants. Les discours des partis populistes ont donc contribué à la démocratisation, si nous pouvons appeler ça comme ça, du populisme dans la société. Virulent, violent, infondé et simplifié, voilà quelques adjectifs que nous pourrions utiliser pour décrire ces pratiques. Prenons l'exemple de l'immigration et du grand remplacement. Écoutez.
Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne.
Et non, je n'ai pas oublié la fenêtre d'Overton, rassurez-vous. Créée dans les années 90, la fenêtre d'Overton définit et encadre les idées perçues comme acceptables par une majorité d'individus à un moment donné. Pour Joseph Overton, lorsqu'on exprime une idée comprise dans la fenêtre, cette idée est alors entendue, perçue comme populaire et adoptée de manière courante dans l'opinion commune. Au contraire, une idée hors de la fenêtre ne fait pas consensus et peut être perçue selon différents degrés. Une idée sensible, acceptable, radicale ou encore une idée totalement impensable pour l'opinion commune. Ce qui est intéressant avec cette fenêtre, c'est qu'elle se déplace et peut s'agrandir ou se rétrécir. Ce possible mouvement de cette fenêtre dans le champ des idées peut évidemment être réalisé volontairement afin de rendre une idée jugée radicale en une idée acceptable pour une société. Imaginez-vous alors une flèche à double sens avec au centre la fameuse fenêtre d'Overton. De chaque côté de cette fenêtre, vous avez alors les idées perçues comme sensibles, radicales ou impensables. Reprenons alors notre exemple de l'immigration et du grand remplacement, thème défendu et mis en avant par l'extrême droite. Sur cette idée du grand remplacement et d'une possible trop importante immigration, les pensées de l'extrême droite sont dans un premier temps jugées comme radicales et en dehors de la fenêtre. Or, les acteurs principaux de l'extrême droite mettent en avant ce thème dans les médias, on passe alors d'une idée radicale à une idée acceptable. Cette idée est ensuite perçue comme sensible grâce à des études qui ne sont toujours pas fondées sur des faits et une communication virulente sur le sujet.
Bon, je souhaite qu'on brise le tabou de l'immigration de guichet social. Aujourd'hui, notre pays est un guichet social pour les migrants du monde entier. Donc je conçois qu'il y ait des gens qui fuient des situations difficiles, mais nous avons des millions de nos concitoyens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et quand j'entends aujourd'hui et que les Français découvrent chaque matin qu'on offre la gratuité des soins à des gens qui viennent dans notre pays, y compris de manière légale, toute la palette de soins gratuite par l'aide médicale d'État, c'est une injustice à laquelle je souhaite mettre fin. Et en la matière, nous n'aurons pas la main qui tremble et nous réserverons les allocations familiales et les aides sociales aux familles françaises qui ont la carte d'identité française sans aucune autre distinction, évidemment.
Cette idée est alors de plus en plus proche de la fenêtre d'Overton et devient de plus en plus un sujet qui touche l'opinion commune. Les acteurs du champ politique se positionnent donc sur ce sujet qui n'était, il n'y a pas si longtemps, propre à l'extrême droite. Les discours pour définir les sujets acceptables et débattus dans le cadre d'une élection sont donc une arme pour les partis populistes. Aujourd'hui, les acteurs du champ politique qui savent élargir ou déplacer la fenêtre d'Overton sont ceux qui obtiennent de plus en plus de voix au moment des élections. Aussi, cette manipulation des sujets au sein de l'opinion commune est accompagnée par d'autres sujets par effet boule de neige. La question de la sécurité se retrouve alors au cœur des débats de l'opinion commune, alors que cette question n'était pas aussi importante il y a quelques années. Les discours sont donc l'un des avantages que possèdent les partis populistes et notamment l'extrême droite dans leur objectif d'acquérir le pouvoir. Cependant, la concentration des médias dans les mains de quelques hommes facilite également la montée au pouvoir. Nous écoutons maintenant Wedad qui nous parle du traitement médiatique des mouvements étudiants à propos de la situation à Gaza.
En effet, aujourd'hui, cela fait plus d'un an que des mobilisations étudiantes appellent à un cessez-le-feu en Palestine. Mais au-delà de leurs revendications, une tendance inquiétante se dessine, la marginalisation systémique de ces mouvements dans les médias, en particulier des actions comme les blocus. Décryptons ensemble cette tendance. Le blocus, pourtant, est une pratique classique dans l'histoire des luttes sociales. Ce n'est ni un acte violent, ni une révolution, mais un geste symbolique pour interpeller la société, pour dire « stop, il faut réfléchir à ce qui se passe ». Pourtant, en France, les médias dominants ont préféré raconter une autre histoire. Dans un contexte déjà polarisé par le génocide, toute prise de position devient un champ de bataille idéologique. On entend des termes comme « dérive », « minorité dangereuse » ou encore « atteinte à l'ordre public ». Le 27 avril dernier, Gabriel Attal, alors premier ministre de l'Éducation nationale, a souhaité s'exprimer à propos du blocus à Sciences Po Paris. Écoutons.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po devant le conseil d'administration pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école, qui est une école importante, évidemment, pour notre pays.
Sans s'éterniser sur ce passage, ce genre de déclaration relayée massivement transforme une mobilisation pacifique en une menace supposée aux troubles de l'ordre public. Et là, le décalage est frappant. Car d'un côté, on a des étudiants mobilisés pacifiquement qui appellent à la justice et au dialogue. De l'autre, des médias et des figures politiques qui les réduisent à des marginaux ou à des radicaux. Pourquoi ce dénigrement ? Peut-être parce que ces jeunes osent poser une question dérangeante. Pourquoi reste-t-on silencieux face à ces drames humains et pourquoi demander un cessez-le-feu est-il perçu comme une provocation ? Ce glissement narratif a des conséquences graves. Il détourne l'attention des revendications réelles et participe à une dépolitisation forcée des mouvements étudiants. Cette criminalisation des actions pacifiques ne nuit pas seulement aux étudiants, elle envoie un signal inquiétant. Vouloir changer le monde, c'est risquer d'être caricaturé et réduit au silence. Pourtant, l'histoire montre que c'est grâce à ces mobilisations que les grandes avancées sociales ont vu le jour. Alors, posons-nous les vraies questions. Pourquoi des jeunes qui réclament la fin de la violence sont-ils si facilement marginalisés et méprisés ? Et surtout, que dit cette réaction sur notre société et sa capacité à entendre un appel à la paix ?
Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers
brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. If students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
On vient d'écouter Hinds Hall de Macklemore. L'émission L'heure des mots continue sur Radio Campus France. Nous allons passer à la chronique de Julia, qui va nous parler de la force, pas des mots cette fois-ci, mais du regard, en particulier au cinéma, là où c'est le langage des images qui prime.
En effet, aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser à ce qui échappe au langage verbal. J'avais envie de parler non pas de ce qui est dit, mais plutôt de ce qui est montré, et surtout comment et pourquoi. En particulier concernant les images du cinéma, un langage plutôt universel. Alors tenez-vous bien, mes jeunes et mes vieilles dames, parce que, spoiler alerte, même quand ils ne parlent pas, eh bien ils nous emmerdent. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, je préviens tout de suite avant que ma mère m'insulte de misandre une fois de plus, c'est Laura Mulvey en 1975 qui l'a théorisé. En gros, à travers sa notion de male gaze, le regard masculin en français, elle explique comment beaucoup des grands classiques du XXe siècle pensent et regardent comme un mec hétéro en chaleur.
Et toi ? Tu regardes, t'as jamais vu une femme.
Ce qui fait que les personnages féminins sont mis en scène et filmés comme étant ni plus ni moins qu'un corps sans cervelle, hyper jouissif pour des mecs qui semblent pas en avoir beaucoup plus. Du coup, nous, on est des petites poupées, et eux, pendant ce temps-là, ils peuvent se la jouer gros héros qui va sauver le monde, qui plus est, au bras d'une belle blonde qui sait pas aligner trois mots. Très très sexy. Bon, je pense qu'on a toutes et tous beaucoup d'exemples en tête, que ce soit des pubs, des clips ou bien sûr des films. Par exemple, on peut citer Make to My Love d'Abelatif Kechiche, film qui, malgré toute la belle dose de soleil qu'il nous offre, aurait peut-être pu se passer de ses 178 plans de fesses. Ça fait beaucoup, oui. Mais attention, et encore heureux, il n'y a pas que ça. C'est ce que nous rappelle Iris Bray dans son livre Le regard féminin, une révolution à l'écran, sorti en 2018. En effet, elle montre comment des hommes comme des femmes, et oui maman, je ne suis vraiment pas misandre, comment certains ont aussi su produire d'autres images et d'autres récits sur les femmes.
Le regard féminin, pour moi, c'est d'être dans l'expérience de l'héroïne. C'est-à-dire qu'on arrête de la regarder à distance, on arrête de la regarder comme un objet, on est avec elle et elle est sujet actif et en mouvement.
Avec une caméra, donc, qui s'attarde sur nos grands cœurs, nos doux visages et nos mille vécus, plutôt que sur nos énormes culs. Désolée Kechiche, c'est vraiment pas perso. Parce qu'après tout, n'oublions pas que les images non seulement produisent des effets sur nous, mais aussi qu'elles disent quelque chose de nous. De fait, cette question du regard, elle est centrale dans les rapports inégalitaires entre hommes et femmes. Par exemple, plusieurs études montrent qu'au sein de l'espace public, les hommes regardent beaucoup plus les femmes que l'inverse. Les femmes ont même tendance à éviter ou détourner le regard des hommes. En gros, le regard, dans la réalité comme sur nos écrans, c'est un outil de domination, de contrôle de l'un sur l'autre. C'est ce même droit à regarder nos corps sans la moindre vergogne qui s'accompagne trop souvent du droit à nous faire part de petits commentaires bien répugnants et non consentis. Parce que si tous les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma se sont permis de nous filmer comme des bouts de viande, alors pourquoi est-ce que Patrick et Steve ne se permettraient pas à leur tour de nous aborder comme des bouts de viande ? Attention, l'idée c'est pas de dire qu'on devrait plus jamais filmer des jolies fesses, même moi je serais dégoûtée, mais c'est plutôt de dire que si le cinéma a le pouvoir, ne serait-ce que moindre, de sculpter nos imaginaires et nos désirs, ce serait peut-être plus sympa s'il incluait ceux de tous et surtout de toutes.
Merci Julia et désolée encore Kechiche. Enfin, nous allons aborder la chronique de Camilla. Les promesses nous permettent de penser à l'avenir, de nous projeter. Elles deviennent une lumière sur le chemin. En migration, la route semble sombre, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait rarement où l'on va. Avec la chronique La Promesse, une rencontre entre le passé et l'avenir de Camilla, découvrons pourquoi la promesse joue un rôle fondamental dans la migration.
Bah, merci, bonjour à toutes et tous. Et au moment où j'ai quitté la Colombie, j'ai fait une promesse à ma grand-mère. Bientôt, je serai chez toi pour manger avec toi. J'ai pensé dire ces mots pour la rassurer sur mon retour, sur le fait que je prendrai soin de moi pendant mon absence et que que nous nous retrouverions. Ce que je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est que la promesse n'était pas seulement des mots pour la rassurer, c'était un lien qui m'attachait à ces moments en sachant qu'à un moment donné, je devrais à nouveau tenir ma parole. La promesse relie un instant qui deviendra bientôt le passé à l'incertitude de l'avenir par des mots qui prédisent une action sans autre garantie que sa réalisation de la parole elle-même. Hannah Arendt établit la promesse comme une possibilité de sécurité qui semble assurer une certaine continuité face à l'incertitude de l'avenir. Elle déclare, dans la condition de l'homme moderne, « Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, les remèdes se trouvent dans la faculté de faire et de tenir des promesses. L'antidote à l'incertitude de l'avenir est la promesse, car elle nous impose la responsabilité de réaliser une certaine action dans le futur, quoi qu'il arrive.
Nous nous retrouverons bientôt.
Je réaliserai tous mes rêves.
Je guérirai enfin mes blessures.
La vie est pleine d'incertitudes. Faire une promesse est un acte de foi dans la possibilité de réaliser l'action promise dans le futur. Cependant, dans la migration, la promesse semble avoir une signification supplémentaire. Elle propose un ordre à suivre au milieu d'une grande obscurité. La promesse n'est pas seulement la responsabilité d'une action à accomplir, mais aussi la lumière sur un chemin complètement obscur. Dans son livre « Permis de résidence », l'écrivain équatorienne María Fernanda Ampuero écrit « Émigrer, c'est être nu au milieu de tous. Émigrer, c'est se sentir toujours un peu étranger, un peu impuissant, un peu perdu. Au milieu du sentiment d'être étranger, de se sentir d'une autre planète, la promesse nous apaise et nous fait savoir que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'atteindre. Retourner, envoyer de l'argent, téléphoner tous les jours, connaître de nouvelles réalités, quelle que soit la promesse, c'est ce qui nous permet de continuer à marcher au milieu de la détresse d'un nouveau lieu. Enfin, la promesse évoque toujours un passé auquel nous sommes liés. Penser à la promesse, c'est revenir au moment où la promesse a été faite, sans perdre de vue l'avenir qui nous attend. Le passé se manifeste comme le moment où tout était possible, où l'avenir ne portait pas encore le poids de l'incertitude, mais celui de la possibilité. Ainsi, la promesse dans la migration devient non seulement une possibilité dans l'avenir, mais aussi un lien à travers la parole qui nous unit au passé et nous permet d'affronter l'inquiétude du futur. Le point culminant de la promesse se situe à la rencontre de ces deux moments temporels, lorsque nous réalisons enfin la promesse. Après l'avoir accomplie, nous ferons probablement une nouvelle promesse qui continuera à lier notre passé et ce que nous avons été à l'avenir incertain qui nous attend.
Je t'appellerai tous les jours.
J'enverrai de l'argent pour que vous soyez bien.
Je reviendrai dans 2 ans.
La promesse devient la possibilité dans la migration, le moteur et la garantie que dans l'avenir, nous rencontrerons un passé dans lequel tout était possible.
Merci beaucoup Camilla pour tes magnifiques mots. C'est la fin de notre émission L'heure des mots. Merci à tous les chroniqueuses et chroniqueurs, Morgane, Zineb, Antoine, Julia et Camilla. Merci à Héloïse pour la réalisation de cette émission et merci également à Zoé et Mehdi qui nous ont mentorés. Bonne journée à tous sur Radio Campus France. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hungry.